Stop avec Gravel et Marceau.
Oh boy, t'as toujours un collègue comme ça le lendemain d'une dure soirée qui te rappelle ce qui s'est passé la veille, hein?
Mais toi en plus,
Denis
c'est
Gravel.
Un petit peu ton, comment dire, c'est, en ce moment là c'est vraiment ta bête noire.
Denis Gravel?
Non, ce contexte là. Ça te fait mal à chaque jour. Il y a une émotion qui est vraiment, vraiment, vraiment importante.
Je suis un gars comme ça. Salut, Denis.
Bonjour.
Avec, ton beau gilet des Capitals de Washington.
C'est pas juste un chandail des Capitals de Washington. C'est un chandail d'Alexander Ovechkin.
Ah, c'est ça. Hein. Avec le C pour capitaine. C'est
un vrai capitaine?
Non, un vrai chandail.
Alexander Ovechkin est un vrai capitaine. Okay. On va commencer par là.
Il va vouloir le dire. Merci, Pascal, d'ouvrir la porte.
C'est un vrai chandail que j'ai acheté sur un coup de tête. Je pense que c'était la Winter Classic entre les Capitals et les Penguins de Washington. Alexander Ovechkin est mon joueur de hockey préféré.
De tous les temps ou c'est rendu ça depuis quelques heures?
De tous les temps. De tous les temps. Pas de farce. J'ai toujours eu le même discours sur Alexander Ovechkin. C'est en le voyant sur la glace du Colisée pendant le championnat mondial de hockey que je suis retombé en amour avec le hockey. Ouais. Après avoir carrément quitté ce sport-là pendant 4-5 ans. Mais quand j'ai vu ce gars-là sur une glace, j'ai fait « Hey, je m'ennuie du hockey. Faut que je recommence à triper sur le hockey. »
Il a toutes les qualités d'un joueur de hockey. Il est gros, il est fort, il est intelligent avec la rondelle. C'est un bon passeur, c'est un bon marqueur. C'est quelqu'un de spectaculaire.
Et il est clutch.
Hier, il est très clutch. Ouais. Hier, je sais pas c'est à quel poste de télé, là, mais il y a un analyste qui disait « Alexander Ovechkin a fait plusieurs choses là, dans la vie. » Il y a des choses qu'il n'a pas faites, entre autres, de marquer un but en période de temps supplémentaire pendant les séries éliminatoires.
Il n'avait jamais fait ça de sa vie avant hier.
Avant hier. Et voici ce qui s'est passé. Va-t-il l'avoir?
Not many, but a few things that Ovechkin hasn't done. Not many, but he's never scored an overtime game-winning goal in the playoffs.
Really interesting here. He's on the shooting spot on the left wing. The Canadians have Demidov and Laine on the ice. A rookie and a player not known for his defensive play.
The puck is free. And a great chance for Beauvillier. Ovechkin scores! Now he has that playoff overtime goal!
La star, il l'a fait.
Hey, c'est qui l'analyste qui a mis la table en expliquant tout ce qui allait arriver? Demidov et sa glace, c'est une recrue, il n'y a pas d'affaire là. Laine et sa glace, il n'est pas reconnu pour son jeu défensif. C'est une mise en jeu dans le territoire offensif. Alexander Ovechkin est dans son sweet spot. Il a comme tout décrit ce qui allait se passer, effectivement. Puis faut faire attention. Moi, j'ai vu
Sean McDonough.
Hey, il a fait tout un job.
Sur ESPN.
Wow.
Vraiment. Puis, tu sais, je sais pas si. T'as écouté la game en direct?
Oui, oui. Bon,
c'est un dégagement de Caden Goulet qui était une passe à Pat Laine. Puis, quand Pat Laine était supposé recevoir la passe à la ligne rouge pour que ce soit pas déclaré comme étant un dégagement illégal, il y a un joueur des Caps qui a donné un double échec dans le dos de Laine. Techniquement, l'arbitre, même si Laine n'a pas touché à la rondelle, comme il y a eu un contact physique sur le point qui était sur la ligne rouge, c'est-à-dire Pat Laine, ben, il n'aurait pas dû appeler un dégagement illégal. Puis s'il le fait pas, ben il doit caler une pénalité parce qu'il y a eu un double échec dans le dos. Là, dans les deux cas, ça ne s'est pas fait. Puis les joueurs qui étaient sur la glace à ce moment-là pouvaient pas sortir de la glace. Donc, ils devaient rester là. Puis c'est exactement ce que McDonough dit. C'est, écoute, c'est tous des rookies qui sont là, puis de l'autre bord.
Si Martin Saint-Louis avait pu faire son changement, il l'aurait fait.
Exact.
Puis ça a créé cette situation-là et ça a créé un but. L'arbitrage a été monstrueux hier.
Ça fait partie de la game.
Comment des arbitres ordinaires en saison peuvent devenir autant médiocres quand les séries commencent? Puis c'est des deux bords en passant.
Ils font partie de la guerre.
Je comprends pas. On dirait que, OK, entre 6 et 8 minutes, on colle tout. Entre 8 et 12 minutes, on colle rien des deux bords. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est de l'arbitrage de mon oncle Gaspard au semi-pro de Saint-Ursule. C'est gênant.
Ils sont probablement aussi nerveux que toi puis moi, mais là, eux autres sont sur le jeu. Puis s'ils prennent une décision, puis ça donne lieu à un but, exemple, puis la décision est remise en question, ils n'ont pas le droit à l'erreur.
Non.
Pis, ce qui fait qu'ils en font. T'sais. Gallagher qui mange un double échec d'un dent.
D'un dent.
L'arbitre est à côté, un mètre.
Il peut pas être plus proche que ça de Gallagher.
La punition est pas appelée.
Plus proche que ça, il leur soit d'indan, lui aussi.
Alexeyev qui est en train de bûcher sur Suzuki. Suzuki est à terre, regarde l'arbitre, il reçoit les coups. Les autres joueurs du Canadien vont pas défendre leur capitaine.
Écoute, mais êtes-vous dans le complot? Parce qu'il y a des gens qui vont se questionner. Est-ce un arbitre vendu, ce qu'on a vu
hier?
Non,
l'arbitrage a été monstrueux des deux bords. Parce que oui, il y a eu beaucoup de situations avec le Canadien, mais si t'écoutais la foule à Washington, ils ont rouspété une couple de fois et ils avaient raison.
C'est moins sévère.
Quand Anderson est allé sacrer Wilson à terre, ben, il aurait dû avoir une pénalité
absolument.
Là. Les arbitres ne l'ont pas appelé.
Fait que c'est un peu comme dans la ligue de football américaine. On est moins sévère rendu aux séries.
Ben,
laisse plus passer de choses.
Ils font partie du jeu, puis oui, il y a plus d'accrochage. Puis tu sais, les trébuchés, ils n'en ont pas laissé passer aucun.
Parce que la game ouvrait, puis il y avait du monde qui se tapotait là, deux minutes après. Là.
Ouais, ce que les arbitres ne voient pas, c'est une chose. Mais c'est arrivé à quelques reprises dans le match d'hier, comme tu as dit, que l'arbitre est carrément dans le milieu de l'action, puis il décide juste, non, je colle rien parce que c'est Tom Wilson puis c'est bien bon pour lui. Un exemple parmi tant d'autres. Ah, oh, Gallagher, c'est un petit baveux, ça va lui faire du bien, un croche-check dindant, je colle rien. Ben voyons donc, t'es pas supposé regarder le numéro en arrière du gars qui se fait varger. C'est pas supposé faire partie de ta prise de décision.
Ouais.
J'ai l'impression qu'on est rendu avec de l'arbitrage très subjectif qui tient la route en saison régulière, mais là, les émotions sont dans le tapis, ça glace dans les estrades, en avant de nos TV, c'est le début des séries. Puis c'est pas juste dans ce match-là qu'ils ont perdu le contrôle. Si on déménage en Ontario, toi puis moi, aujourd'hui, la bataille de l'Ontario est poignée solide.
Oui, exact.
Il y a beaucoup de monde qui sont des partisans des Leafs, qui sont en joie le vert déjà après l'arbitrage.
Moi, je pense que le Canadien peut gagner cette série-là, mais hier, les joueurs des Caps étaient beaucoup trop gros.
Oui.
Ils voulaient détruire
en
tout ce qu'il y avait un signe du Canadien sur le gilet. C'était pas beau à voir Caulfield qui s'est fait ramasser par Ovechkin.
Par Ovechkin! Hey, il est quasiment retourné à Montréal.
Mais il est pas là le problème. Vous êtes crampé, là. Vous aimez ça. Probablement
non,
que les arbitres se disent aussi ça va animer un peu la foule.
Non, j'aime pas ça. Lane Hudson qui se fait rentrer dedans, puis il est envolé à l'horizontale sur 1,5 m, 2 m.
Ouais.
Puis tu sais, c'est un gars qui est tellement petit, puis il est habitué à se faire brasser, qui a atterri sur ses patins. Mais on est beaucoup trop petit, puis je pense que Martin Saint-Louis va avoir une décision très importante. C'est un gars qui a un égo assez démesuré là, pour avoir réussi à faire ce qu'il a fait dans la Ligue nationale de hockey, remporter les plus grands honneurs à cette hauteur-là. Faut être fait tough en sacrifice.
Il est de la graine
de Théorène Fleury. Tu te souviens de Théorène Fleury, là? Il est fait tough en sacrifice. Mais quand il est arrivé dans la Ligue nationale, écoute, il avait son plus haut niveau de coaching, c'était niveau Pee-Wee. Puis ce que les journalistes disaient, c'est que tu sais, il avait une petite tendance à se prendre un peu pour un autre, Martin Saint-Louis, mais c'est probablement ce qui lui a donné une carrière dans la Ligue nationale de hockey. Puis là, ben, il a mis Arbor Jacky sur des estrades. Est-ce que là, il va être tenté de le rappeler ou c'est son orgueil qui va dire non, moi, je veux qu'on joue au hockey?
Je pense qu'en série, tu as besoin de gros bras. Quoi qu'il arrive, toutes les dernières équipes qui ont gagné la Coupe Stanley puis qui se sont rendues loin, qu'on soit d'accord avec ça ou pas, ça fait partie de la recette. Puis c'est le point manquant hier. Je veux dire, le Canadien a été la victime pendant la moitié de la game. Encore une fois, ils n'ont pas été capables de jouer trois périodes. Ils ont été pris de vitesse. Moi, tout ce que je pensais qu'il allait arriver avec les Capitals n'est pas arrivé. Je pensais qu'il allait arriver flat, moi, les Capitals, à cause de ce qu'ils avaient vécu, le record fracassé d'Alexander Ovechkin. Tu sais, quand tu vis des grosses émotions positives avant d'arriver à la finale de la Coupe Stanley, ça peut te faire tomber dans une espèce de petit down. Puis on l'a vu, les Blue Jackets les ont corrigés deux fois en fin de saison. Puis les gars, ils étaient sur la glace, là. Ils n'ont pas reposé à moitié de l'équipe. Moi, je m'attendais à voir le Canadien dans le rôle des Capitals hier. Je pensais que c'est le Canadien qui allait rentrer vite, qui allait rentrer fort, qui allait bombarder le but.
Ah non, ils ont été intimidés.
Oh là là!
Kaden Goulet avait de manger ses toasts ce matin quand il s'est levé. Là, ça devait faire mal.
Ouais, ça commence déjà à faire mal. Il n'y a rien qu'une game de jouer.
Parce que les Caps l'ont ciblé en partant. C'est le défenseur qui s'est fait le plus ramasser. Parce que c'est le meilleur défenseur du Canadien, là, Kaden Goulet, actuellement. Puis je me dis, mais hier, là, à 2-0, je me dis la game est finie. Puis de voir que le Canadien est revenu de l'arrière avec un but de Caulfield, entre autres, qui était un super but. Être capable encore d'être dans le trafic malgré le fait qu'ils se sont fait brasser. Je pense encore que cette série-là est prenable, mais va falloir que les gars se défendent entre eux autres. Quand le capitaine se fait brasser puis il n'y a pas personne qui réagit, quand Caulfield se fait détruire comme il s'est fait détruire par Ovechkin, il n'y a personne qui saute sur Ovechkin.
Non.
Je pense qu'on a donné un aura à Ovechkin, Puis il est comme un intouchable, mais c'est pas Wayne Gretzky, Ovechkin. Là. Il est capable de te détruire. Faut que t'ailles te mettre dans ses jambes, faut que tu le déranges, faut que tu le plaques, faut que tu y fasses du mal.
Est-ce que je me trompe en disant que le joueur qui a servi le plus de mise en échec hier soir, c'est Alexander Ovechkin, sur les deux clubs?
Ça me surprendrait pas.
À mi-chemin de la game, il y en avait 7. Ça, je le sais, là, parce que maintenant, ils ont sorti la statistique à TVA Sport. Je sais pas si à la fin de la game, il a gardé le spot, mais si c'est le cas, c'est deux buts, deux gros buts, et le plus grand nombre de mises en échec. Ce gars-là a décidé que c'était pas fini, les célébrations pour cette année. Ils vont être durs à battre, les Capitals de Washington. Faut pas que le Canadien fasse d'erreur. Les revirements de situation qu'ils ont causés hier, il y a des trucs impardonnables. Ben oui. Pis...
Matheson était stressé comme pas possible.
Armia a manqué, je pense, 9 rondelles qui étaient supposées d'aller sur sa palette sans aucun degré de difficulté.
Et tu vas dans un coin contre Wayne Gretzky, faut que tu te watches de pas te faire voler la rondelle. Tu vas dans un coin contre Ovechkin... C'est toi qui vas se faire ramasser.
Le train s'en vient.
Il veut même pas la rondelle.
Mais Saint-Louis, mais j'écoutais Martin Saint-Louis à la fin de la game, puis il dit ça, il dit c'est des affaires qui se coachent pas, faut que t'y vives. Il dit la plupart, là, c'est le premier game à vie de séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Il y en a qui viennent de comprendre de quoi. Là. C'est que le niveau
aussi
est pas pareil.
Fan de Ovechkin, je dis pas parce que tu joues contre les Capitals, c'est supposé être tes ennemis. Ces gars-là, ils sont plus jeunes qu'Ovechkin. Ils s'en viennent en quarantaine. Ils l'écoutaient peut-être il y a plusieurs années à télé. Ils l'ont peut-être suivi. Le gars, il bat un record. Il arrive, sa glace est en série. Ouais. T'es contre le Canadien. Tu sais que t'as cette match. Peut-être que ton mental l'a pas suivi puis tu l'as épargné un peu parce que t'es fan.
Moi, c'est drôle. Ça serait l'inverse. Si je suis un fan d'Ovechkin, je me fais un honneur de faire en sorte qu'à la fin de la série, ils me disent « Hey, toi, mon tabarne. »
Mais toi, t'es toxique.
Toi, tu m'as pas lâché.
Imagine-toi, Demidov est dans son pays, il regardait les matchs du Canadien, possibilité de faire les séries éliminatoires. Un de ses joueurs préférés dans la Ligue nationale, si c'est pas son joueur préféré, c'est Alexander Ovechkin.
Je viens de la même place.
Aller en Amérique jouer pour mon Canadien parce qu'on va être en séries éliminatoires, possiblement contre les Caps. Ça arrive.
Hier, c'est gros, là.
Hier, il y a eu une scène à un moment donné, là, tout le monde était en face de Montembeau. Puis Demidov est arrivé. Pis tu vois Demidov passer, tu vois Ovechkin qui est en arrière puis qui calife un double échec dans le dos.
Ouais, ça joue off.
Tu sais, c'est ton joueur préféré puis il te varge de même. Il n'y a pas de place au respect.
Non.
Le prochain match, faut frapper plus fort.
Faut arriver à l'heure aussi. Faut starter ce game-là dès que la première puck tombe sur la glace. Ça a été un vilain défaut du Canadien toute l'année. Tu peux pas te permettre ça contre la meilleure équipe de la Ligue.
Donc, défaite du Canadien 3-2 en prolongation hier. Le prochain match, c'est
mercredi.
C'est mercredi. Yes. Donc, je me trouverai pas d'autre chose à faire.
C'est vendredi, dimanche en passant. Donc, mercredi, Washington, vendredi, dimanche au Centre Bell.
Deux jours.
Exact. Sinon, y a-tu d'autres choses que je voulais te jaser? T'as-tu regardé un peu le plan conservateur au niveau économique?
J'ai vu les deux cadres financiers en me levant ce matin. Là, je te cacherai pas que j'ai tiré la plug en fin de semaine. Fais du bien une fois de temps en temps.
C'est plus de droite économique, là. Tu sais, je pense que ça ne te surprend pas. Que les conservateurs le fassent en revenant d'un congé de 4 jours, j'aime beaucoup ça parce que ça va être très couvert. Mais que Mark Carney, avec les libéraux, amène des déficits encore plus élevés que quand c'était Justin Trudeau qui était là puis qui nous donne ça un samedi après-midi dans une fin de semaine de 4 jours. J'ai trouvé ça très large de la part des libéraux.
Tu penses que c'est ça qui a tué le pape?
C'est stratégique.
C'est pas drôle, jeudi.
C'est stratégique. On va parler avec Antonine tantôt, mais la stratégie me dégueule.
D'essayer de faire passer ça, tu penses, entre deux chocolats de pâte?
Ben oui. C'est clair et net que c'est ça. Là.
En même temps, je veux dire, il n'y a pas énormément de sujets qui restent à jaser. Il reste une semaine de campagne électorale. Les cadres financiers n'étaient pas sortis.
Ce qu'on n'avait jamais vu, parce que quand tu as des débats en français et en anglais, habituellement, les cadres financiers sont sortis. Oui. Tu es capable de débattre là-dessus. C'était une première. Là.
C'est arrivé tard. C'était le temps que ça arrive. Ça aurait dû arriver avant, justement, pour prendre plus de place. Mais qu'est-ce qui reste à jaser là, pour la prochaine semaine? Là? Mettons de l'emphase là-dessus, puis parlons-en des cadres financiers.
Ça va être l'aspect économique. Écoute, en fin de semaine, là, je regardais les articles. 225 milliards de déficit additionnel avec Carney comme premier ministre du Canada. Ce que les conservateurs veulent mettre en place maintenant, c'est que toute nouvelle taxe va devoir passer avec un référendum. Donc, si un gouvernement, dans 10 ans, dans 20 ans, veut avoir une nouvelle taxe pour financer ci, financer ça, ben ils vont devoir demander à la population au grand complet. Et ça, je trouve que c'est un bâton dans les roues de Mark Carney.
Ouais, il y a des phrases, par exemple, si je veux être l'avocat du diable, qui m'ont donné un vague sentiment de déjà-vu et de dégoût, parce qu'il y a beaucoup de phrases qui ont été utilisées par la CAQ pour devenir le gouvernement à son premier mandat. La bureaucratie est plus forte que les gouvernements. Il faut là se le rentrer dans le crâne, là. Moi, quand ils arrivent puis qu'ils disent « on va dégraisser la machine puis c'est comme ça qu'on va réussir à faire des économies », sont pas capables, à moins que la machine soit plus malléable au fédéral, mais les phrases qui sont dans le plan financier Poilievre, c'est du copier-coller de ce que la CAQ nous vendait il y a 8 ans, puis qui n'ont jamais livré, au contraire. C'est sûr que c'est des phrases que le monde veut entendre. Maintenant, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Ça vous appartient. Moi, ce discours-là, j'ai de plus en plus de misère parce que j'ai l'impression que souvent, c'est le discours de gens qui n'ont jamais été un gouvernement puis qui ne savent pas que la machine est juste plus forte qu'eux autres.
Puis, on a vraiment un devoir actuellement parce que la chose que j'entendais le plus souvent dans le week-end de Pâques, c'est des gens qui disent « je vote pour le moins pire » puis ils ont de la misère à trouver le moins pire. Si on est rendu là au fédéral... Avec le vote par anticipation qui commençait, on n'a pas les cadres financiers. Il y en a un qui est sorti samedi. Il nous restait quelques jours pour aller voter quand même. Là, celui des conservateurs sort aujourd'hui. Ça ankylose partout. Avec la crise internationale qu'on vit, la crise économique, d'entendre aussi clairement, aussi souvent des gens qui ne se parlaient pas se dire « ben on ne sait plus pour qui voter parce qu'il faut voter pour le moins pire », je trouve ça vraiment triste où on en est rendu avec notre politique. Là.
Les conservateurs vont devoir s'intéresser aux plus vieux. Parce que là, visiblement, les conservateurs, les jeunes semblent être plus conservateurs que libéraux.
Qu'est-ce qu'on fait? On parle plus fort?
C'est les personnes...
On va baisser les impôts, là! Venez voter, là! Oubliez pas!
Ouais, c'est les personnes âgées qui restent à la peine du côté de Pierre Poilievre. Là. Je sais qu'hier, il a pris un bain de foule puis il répondait aux questions des plus âgés. Des gens qui ont peur de perdre leur acquis, c'est tout à fait normal.
Mm-hmm.
Mais est-ce qu'il va réussir à changer le vent de côté? Écoute, ça va être très difficile.
Je suis pas sûr que les enjeux sont assez forts. Regardez, en plus, à l'écran, en ce moment, Dow Jones, le pire mois d'avril depuis 1932. Les gens, en ce moment, je ne suis même pas sûre qu'ils se targuent d'aller s'informer sur d'autres enjeux en politique. Tout le monde pense à leur futur. Puis leur futur, c'est la maison, c'est l'économie, c'est nourrir les enfants, c'est être capable d'avoir un peu d'argent de côté ou du moins boucler à la fin du mois. Là.
Il y en a beaucoup qui « prendront pas de chance », entre guillemets. Puis c'est peut-être ça qu'on voit quand on voit dans les sondages ou les intentions de vote que le trois quarts des gens, leur idée est déjà faite. T'sais. C'est pas des gens qui vont changer d'idée parce qu'ils veulent pas changer d'idée. Ils ont peur de prendre une
chance. C'est le syndrome
de
l'écureuil. Quand tu le croises, il retourne de bord parce qu'il voit le danger.
Je sais pas, je suis bâti différemment, là, mais à 80 ans, mon penser à mes enfants et mes petits-enfants, je penserais pas à mon nombril. Puis là, je comprends que je vais pas prendre de chance. Chris, regarde ce qui va être mis en place pour les 10 prochaines années. Puis dis-toi, tu veux-tu ça ou tu le veux pas pour tes petits-enfants? Je veux dire, s'endetter à n'en plus finir, frôler la décote, c'est tes enfants puis tes petits-enfants qui vont payer. Dans 2-3 ans, tu vas être parti avec le pape, toi-là.
Il y a une grosse partie de ça qu'on contrôle plus de toute façon, je veux dire. Tant que Donald Trump va être là puis qu'il va continuer de chier à terre à la Maison-Blanche avec ses tableaux pour tarifer les pingouins, je veux dire, mets les conservateurs là, mets Jagmeet Singh là, mets Mark Carney là, il y a 3/4 de notre économie qu'on ne contrôle pas nous-mêmes. On est à la merci de ce qui se passe ailleurs.
Mais le nombriliste de 100 ans qui dit « Non, moi, mon idée est faite, je m'en vais avec les conservateurs, je veux pas rien perdre.
Mm-hmm. »
Prends la peine de lire les différents programmes. Là. Regarde les plans économiques des deux partis les plus populaires, puis dis-toi qu'est-ce qui est le mieux pour le futur de tes enfants puis tes petits-enfants.
Ben, encore là, tu vas me trouver tannant, là.
Je peux pas croire que c'est les boomers qui me dirigent encore. Je peux pas croire.
Ben, on va être une maudite gang, nous autres, là. D'ailleurs, les boomers qu'on est en train de devenir sont pires que la génération d'avant. Si tu me demandes mon avis, là, on est rendu chiolé, on est rendu sensible, on haït les jeunes. On est en train de devenir tout ce qu'on haïssait des boomers, mais en pire. Les boomers pirates, pas moi pas. Les gens les plus sensibles et les plus moutons de la planète. Fermons la parenthèse. Il n'y a pas de mauvaise raison de voter, ça vous appartient. Personnellement, rendu à 80, je vais avoir des discussions, j'espère encore avoir des discussions avec mes enfants et mes petits-enfants, tu sais, puis m'orienter sur leurs réflexions plus que les miennes. Mais ça, c'est moi, tu sais.
J'entendais en fin de semaine à TVA là, des gens qui n'étaient même pas capables de prononcer le nom de Mark Carney. Ils n'étaient pas capables de le prononcer.
Pourquoi?
Ben, il savait juste pas c'était quoi son prénom, ben non, son nom de famille.
C'est rouge.
C'est rouge.
Je te l'ai déjà compté.
Oui, oui.
J'ai travaillé dans un bureau de vote.
Non.
J'étais jeune au Saguenay. Je travaillais dans un bureau de vote pour une élection fédérale. Puis, il y avait une situation où on a été obligé d'intervenir parce qu'une vieille dame refusait de voter seule parce que son mari n'y avait pas dit quelle couleur voter. Quelle couleur voter? C'était exactement la phrase. Ouais. Elle était en panique.
C'était comme ça avant. Hein?
Elle était en panique parce qu'elle ne se souvenait plus s'il fallait qu'elle vote bleu ou qu'elle vote rouge. C'est triste, mais c'est ça. Il y a des gens qui vont voter rouge ou bleu encore. Là. Ils vont arriver par autobus. Là. Des beaux voyages organisés. Aujourd'hui, on va pas au centre d'achat, on va au bureau de vote. Puis, eux autres, ils votent avec la couleur.
Mais prenez la peine de regarder les programmes, par pitié. Pensez pas juste à vous autres. Pensez à nous autres. Pensez aux enfants. S'il vous plaît. Il me restait quoi à jaser avec toi? Le pape?
Pape est mort. Pape, 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 pape.
Hey. Conspirationniste parle. Y'a-tu demandé l'aide médicale à mourir pour mourir à Pâques?
J'imagine que ces gens-là peuvent choisir leur moment. Peut-être qu'il a toffé par égo. Ça se peut. J'ai lu un petit peu là-dessus aujourd'hui, puis c'est un gars qui voulait faire sa job le plus longtemps possible.
Mais tu choisis pas d'avoir un ACV pendant une nuit, Denis?
Ouais, mais tu sais, il y a du monde qui meurt après le temps des fêtes. Là. Ça arrive souvent, ça. Ouais. Tu sais, je passe le temps des fêtes, je vois mon monde, puis après ça, je me laisse aller.
Ouais, mais il était pas fort, là, dans les derniers jours. Là.
Non, c'est écoute, ils ont fait faire un tour de char. Après ça, il était content là, de ce que je comprends.
Ah, j'ai regardé les photos, il avait de l'air tanné.
Dans les 5 ou 6 derniers jours, c'est la dernière élection qu'il a fait sur le balcon, là, tu sais, comme t'habitues, là, où c'est pas facile.
Il avait de l'air tanné.
Ouais. Mais ça a été un des papes les plus ouverts qu'on a eu, par contre, dans l'histoire. Ça, c'est important de le dire. C'en est un qui s'est prononcé, qui a osé le faire par rapport à l'homosexualité en disant qu'il pour commenter la chose. Et ça avait brassé, rappelez-vous, là. Il venait d'être élu, puis il prenait des positions qui étaient radicales pour le monde religieux.
Il a permis
religieux
à des gens du même sexe d'être mariés par des curés, ce qui n'avait pas été fait avant. Je lisais en fin de semaine un peu sa bio, je ne m'étais jamais à côté là-dessus pour lire ça. Puis il a déjà été videur dans un bar.
Ah ouais?
Fait que le pape a déjà pété des gueules.
Ça, on le sait pas.
En vérité, je vous le dis, dehors! Ça, c'est moi qui va te sortir.
Videur dans un bar, hein, ça brasse, là. Mais c'est ça. Moi,
peut-être
je me
pour
suis
ça qu'il est viré pape, là. Il s'est dit, il va falloir que je me retienne un peu. Le vice est en prix de moi.
Mais je me suis fait dire, il aurait peut-être demandé l'aide médicale à Mourin. J'y crois pas, mais je trouve ça curieux, à Pâques.
Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie du narratif. Il y en a qui vont te conter une belle histoire religieuse autour de ça.
C'est encore très populaire, par contre, pour que ça soit aussi important partout dans le monde, cette mort-là. Il y a la structure hiérarchique, il y a la structure historique de ça. Mais, je veux dire, on en parle partout, là.
T'aimerais-tu ça, choisir ton moment, toi?
Ça dépend dans quelles circonstances.
Rendu malade, là. Rendu en fin de vie, là. Lui, il était en fin de vie, là. S'il a choisi son moment, sais-tu quoi? Je suis vraiment content pour lui. Moi, j'aimerais ça avoir cette liberté-là. Un coup rendu magané, choisir mon moment, là. Prendre une semaine pour voir les gens que j'ai le goût de voir, leur dire ce que j'ai le goût de dire, puis après ça, dire, garde. Mets du coke là-dedans, là, puis mets-moi ça dans les veines, puis ça va partir.
C'est sûr que moi, il va y avoir des ententes, là. Si j'ai... Ben là, je dirais pas ça devant Pascal, mais. Écoute pas, OK? Si j'ai toute ma tête, je veux qu'il me garde.
OK.
Si j'ai plus toute ma tête, je veux qu'il me laisse partir.
Ouais.
Moi, je suis pas supposé l'entendre parce que je vais décider que tu pars dans toutes les conditions. Là,
tu sais, je viens d'une famille.
Tu pourrais me dire qu'il me reste 24 heures.
Je viens d'une famille qui a un côté très religieux. J'ai un oncle qui a été moine longtemps à Saint-Benoît-du-Lac puis qui travaille à Rome au moment où on se parle.
Oui,
mon oncle Hervé. Puis on avait une grand-mère qui était excessivement malade et mon oncle, qui est rempli de bonne volonté, mais qui est un gars très religieux, interdisait à ma grand-mère de se laisser mourir.
Mm. Et non.
Puis on était quelques-uns dans la famille à, comment dire, grincer des dents. Tu sais, des gens qui veulent décider à la place de quelqu'un, tu sais, hey, mais là, je suis malade, je suis fatigué, je sortirai pas de l'hôpital.
T'as le droit de donner ton opinion, mais t'as-tu le droit de choisir à la place de quelqu'un?
J'aime pas ça. Puis c'est pour ça que j'aimerais ça. Une des raisons pour lesquelles j'aimerais choisir mon moment, c'est de ne pas donner ce choix-là à quelqu'un d'autre.
Je pense que c'est mal vu. C'est comme s'enlever la vie, puis le suicide est mal vu dans la religion parce que, bon, tu t'en vas chez le diable, puis tout ça, là, tu t'en vas pas au paradis. Là. C'est peut-être ça que ton oncle, à ce moment-là, avait à l'intérieur de lui par sa grande foi.
Ben,
de se dire, elle va s'envoyer dans
Satan. Son raisonnement, c'était, c'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide. Dieu va venir te chercher quand tu vas être prête, mais toi, t'as pas le droit de te laisser aller. Moi, je suis en désaccord total avec mais en même temps, je comprends d'où il vient, puis je comprends c'était quoi son raisonnement. Je suis juste en profond désaccord moral.
T'as-tu fait tes papiers?
Mes papiers de testament?
Ouais.
J'ai un testament.
Tout est fait.
Ouais.
Avec des enfants, c'est un peu essentiel.
Parce que moi, ben moi c'est pas moi qui ai décidé, c'est la mère de mes enfants qui a dit « on s'en va chez le notaire, embarque dans le char ». C'est toi qui conduis. Fait que j'y étais, mais ma mort, j'ai pas décidé de ça.
Est-ce que tu veux à ta mort?
Non.
En même temps, t'es plus là.
Ça, c'est l'autre affaire.
Je suis plus là.
T'es mort, je veux dire. C'est plus tes proches qui ont besoin de certaines choses.
Ouais, tu veux pas laisser ce fardeau-là à tes proches de choisir à ta place.
Et financièrement aussi.
Ouais, c'est ça.
Puis, tu sais, la cérémonie, là. Il y a des gens qui sont très... Ma mère est très à cheval là-dessus. Je veux pas de cérémonie, je veux pas ci, je veux pas ça. Maman, t'es plus là, t'es morte. C'est pas nous autres qui est plus important dans ce cas-là. Toi, t'es parti. Nous autres, on a besoin de quoi? Moi, ce qui va se passer, j'ai callé ma shot. Quand je vais mourir, vous ferez ce que vous voulez. Faites ce que vous avez besoin. Vous voulez m'embaumer d'une tombe, puis me toucher, puis trouver ça bizarre, vous le ferez.
Moi, je trouve...
C'est un peu bizarre, oui.
Vous voulez me passer au feu, puis garder une urne dans le salon, vous le ferez. Vous voulez prendre mes cendres d'une canne puis garrocher ça dans l'eau.
Vous voulez m'empailler devant un micro.
Checker la direction du vent avant de faire ça, par exemple, parce que vous allez avoir du gravel plein la face, là, sinon. Là.
Mais tu le fais à chaque jour.
Mais tu sais, tant que je vis, je veux prendre mes décisions, puis c'est mes choix. Mais à partir du moment où je suis plus là, faites ce que vous voulez. Okay. Puis c'est un peu ce que je disais à ma mère, tu sais. Si nous autres, on a le goût d'avoir une cérémonie puis de se rappeler les bons moments puis qu'on a besoin de brailler, c'est pas plus important que toi, ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Okay. Toi, t'es parti. Nous autres, on est là, on a besoin de quelque chose.
Ouais. Moi, j'avais juste interdit une affaire.
Quoi?
C'était de me transformer en bijou, de me garder dans une résidence. Non, je veux pas être dans un collier.
Tu veux-tu être dans un tatou?
Parce que, tu sais, je veux dire, quand j'ai jasé de ça avec la mère de mes enfants, elle est encore jeune, tu sais.
Ouais.
Je comprends, elle est encore jeune aussi, mais elle est encore jeune. Fait, je me disais, ben si un jour je quitte, j'aimerais que tu refasses ta vie. Mais supposons que... Moi, je crois à rien. Là. Mais supposons que je suis collé dans le collier puis je vois tout ça aller.
Mais tu sais qu'il y a une rumeur qui court dans le showbiz par rapport à un collier de cendre. Hein?
Mettons qu'elle dit à lui, t'es meilleur que mon ex, mettons.
Ah. Toi, t'es là, toi, tu es dans le collier. Dans le collier.
T'es pris.
Ouais, t'es wise. T'as bien fait.
Moi, j'ai toujours dit, sacrez-moi quelque part, dans le fleuve, dans l'océan, sacrez-moi quelque part, puis laissez-moi là. Puis quand vous voudriez me parler, là, vous irez sur le bord du fleuve, vous me jaserez.
Ça, c'est beau, j'aime ça. Ouais. Ça.
Ouais. Les cendres dans un collier, tu sais pas c'est quelle partie de ton corps non plus que la personne traîne tout le temps sur elle, là, ça, c'est une autre question. Mais il y a une grosse rumeur dans le showbiz.
Il y a certaines parties où le collier serait pas assez gros.
Ben, une fois brûlé. Hein?
L'ego. Ah.
Ça se brûle-tu, ça?
Les gars de radio, c'est Lego.
Il y a une rumeur dans showbiz par rapport à un collier de cendre. Il y a un artiste qui en portait un de sa parenté. Et ça a été sniffé par un caméraman en pensant que ce qu'il y avait dedans, c'était la coke.
Ça a été sniffé?
Oui, fait qu'il y aurait un caméraman qui a sniffé le père de quelqu'un.
Kate Richards avait dit ça en entrevue, qu'il avait sniffé les cendres de son père, puis il a été obligé de revenir quelques semaines plus tard pour dire « Moi, j'ai fait une joke, puis tout le monde m'a pris au sérieux. » Il y a James Hetfield de Metallica qui s'est fait faire un tatou avec les cendres de Lemmy de Motorhead, les cendres mélangées à de l'encre. Je savais même pas que ça se pouvait. Je racontais ça aux filles dans... ce qu'on fait l'après-midi, la petite histoire du rock. Ouais. L'année passée, James Hetfield a pris les cendres de Lemmy de Motorhead, mélangé ça avec de l'encre, puis il s'est fait faire un Ace of Spades là, en mémoire de Motorhead.
Ouais. Clair qu'il n'y a pas de danger. Il y avait tellement d'alcool là-dedans que tout est désinfecté.
En même temps, il y a un côté significatif et très morbide à ça.
Ouais. Midi 32, Denis Gravel, merci.
Yo.
On se rejase demain dans le Pit Stop. Sinon, on t'écoute à 14h.
Yes.
À tantôt. Bye-bye.